And Laurent Richard is from the NGO Guernica. And other persons are students in the Humanitarian Action Program, and maybe. And also, oh yeah, sorry, Annie is our guide, interpret, our l'interface entre nous et les Bosniens. And maybe I can ask the students to present. And no, to present, and also if you are interested about, more interested concerning Srebrenica, please tell us.
Oui. Alors, on commence.
Comme Halidou Moussa, from Ghana.
Alice Kotchiowski from England.
Yes, I'm interested. I think everyone is interested in Srebrenica because we're going to visit there in two days. So.
Oui, Admir Maslow from Bosnia-Herzegovina.
Stéphanie from Lebanon. Céline de France.
Nadège
de France.
Andrea de Austria.
Okay. Benjamin from Mexico.
Isabelle from Brazil.
And I'm Alexandre Prieto. And I'm the program manager, so I will do it in English then. I will start with English. So I'm the program manager of the what is called the Srebrenica Regional Recovery Program. So I'm only focusing on Srebrenica and two surrounding municipalities. So we're covering three municipalities. So it's the municipality of Srebrenica, Bratunac and Milici. It doesn't mean anything to you, but it's in the eastern part of Bosnia. And it was, of course, affected by the events that took place in 95. So if we're looking in terms of the population before the war, there was a population of 86,000 inhabitants in all three municipalities, and today we have around 43,000, so half of the pre-war population. The characteristic, in fact, of the region is that we have, in terms of the economy, we have a very high level of unemployment. We have devastated infrastructures, and we have very weak governing structures. So these are the main characteristics there. Without, of course, mentioning the large demographic changes, and with also a high percentage also of displaced persons coming from Sarajevo, Zenica, and other areas that moved to Srebrenica and the other two municipalities. UNDP started its activities in Srebrenica in 2002 with the implementation of the Srebrenica Regional Recovery Program.
When exactly?
In 2002, September 2002. The original budget was $12.4 million, and
how much? Sorry,
12.4. And up to today, we have mobilized more than that budget. So we have mobilized above $24 million, out of which we have up to today we have implemented close to $18 million. US dollars out of these 24 million. The concept of the program is to implement activities within three interrelated components. We have local governance, we have infrastructure, and we have economic development. And so the principle, I mean the methodology that we have chosen was to work both at the same time on local governance but also on rural development, and to really build synergies between the two of them. Because you had a lot of projects that implement either activities in, I don't know, local governance without any interventions in rural development, or you had the opposite, where you had organization implementing activities in economic development without addressing the problem of local governance. And so we thought that it was important to have both elements to have really synergies, and also to develop participatory decision-making mechanisms within the municipalities, so to ensure that there will be sufficient representation of the citizens in decision-making, either at the level of the program, but also at the level of the municipalities. Okay. That's in broad line, in short. I don't know where to start now. I'm a little bit stuck, I'm sorry. Maybe we
first round.
Maybe to take questions.
Yeah.
I just gave you a I think that's the best like this.
L'aspect société civile qui m'intéresse, est-ce qu'il y a une société civile, est-ce que vous la soutenez? On peut peut-être prendre plusieurs.
Yeah.
I had prepared some questions because I'm supposed to take the mic too late, so I already had some questions for it. So far, for me, it's been very interesting to be in this trip because I realize how really complicated the situation in the country is.
Mm-hmm.
I mean, it's definitely more complicated than I expected. Because when you see the situation from abroad, you actually believe that the whole process of recovery is already easy and easy going. And, you know, the country is easily going up. But now that we are here, we're definitely, well, at least myself, I'm encountering that these three entities, talking about
two entities,
and two entities talking about politics, still coexist, and still they are each other trying to develop or to
mm-hmm.
go on. And by looking at that, I'd like to know if, from the point of view of the United Nations Development Programme, do you still have like different indicators for those entities, or do you keep just one indicator or one set of indicators?
No, we desegregate the.
You also segregate indicators.
Yes.
And okay, given that situation, which of the two political entities is in better numbers or in better shape?
The main focus of the programme was on minority returnees. That was the aim of, I mean, the target group of the programme is minority returnees. In this case, it's Bosniaks.
Okay.
What is defined as being Bosniaks, or in other words, Muslim Bosniaks.
Okay.
And that's our focus group. Of course, we couldn't do a programme where we will have something like 80% of Bosniaks and then 20% of Bosnian Serbs when the demographics are showing that you have like 80% of Bosnian Serbs and 20% of Bosniaks.
Okay.
In Srebrenica. So we're trying to keep a certain balance of 50-50 or 60% to 40%, depending also on the type of activities that we're implementing.
Okay.
If we're looking at infrastructures,
yes,
we're trying to keep a balance.
Yes.
Of 50%, 50%. When we're looking at economic development, then the percentage for Bosniaks is higher, and maybe it's reaching between 65% to 70%, because there is a problem in terms of discrimination on employment.
Okay.
C'est qui a des problèmes de?
Les Bosniaks.
Les
Bosniaks. Now, regarding that, can we have some numbers about, for instance, the HDI, Human Development Index, for this population? How are they doing? Or it's too soon to have that?
It's too soon to have it. And you have a first problem is that you have the human development indicators.
Okay.
But they exist only at the national level.
Okay, and that is mixing again the whole thing.
Yeah.
But we're talking about different.
But in Srebrenica we don't have.
Okay.
We don't have it. Because everything is done in approximation, more or less.
Okay.
Because the last census was in 1991.
Correct.
And nobody has a clear idea of the number of the real number of inhabitants in Bosnia.
Okay.
And
any project on a sample survey on this population, because it's not very large.
That would be possible.
Could be accepted by the authorities.
Sorry?
Could be accepted this idea of a survey sample by the
That's what we're doing at the national level.
Mm-hmm.
at the national level, that's what UNDP is doing. So
mm-hmm.
when we're doing the Human Development Index,
mm-hmm.
then we're looking at a sample
mm-hmm.
Based on approximations of the population that we have.
Mm-hmm.
So based on the ID cards and on the number of ID cards that have been issued, and then the different ethnic groups then that you have in the percentage. The problem in Srebrenica is that, for example, you have people that have an ID card from Srebrenica, but in fact they're not living there, but they're living somewhere else.
Okay.
Or you have people living in Srebrenica but have an ID card from Sarajevo.
Yes.
And so it's extremely difficult. Nobody has a, for example, you'll have people telling you that there's 15,000 people living in Srebrenica, then others they will tell you there's 11,000.
So you would need a household survey?
Yes.
As a demographer.
Yes. And then nobody wants that.
Nobody wants that at this point.
At this point, I mean, they're starting now the discussion about the census,
mm-hmm.
But no agreement has been reached so far.
Uh-huh. And this leads me to my last question. If you are not using this index as a way to measure, which are your indicators then in this particular case?
That's a good question.
Yeah, how do you measure your progress?
Or progress.
No.
We're doing a longitudinal poverty assessment. So we're doing a poverty assessment.
Okay.
And we're doing the poverty assessment on 3 years, so that we can compare, I mean, we can just
mm-hmm.
basically compare the different information, I mean, the different data that we gather during the 3 years and look at the change.
Okay.
What we did is that in the assessment, in poverty assessment, we're not only looking at the three municipalities that we're covering, but we're taking a fourth one, which is also a neighboring municipality, just to be able to compare if the program really had an impact on development or not. And then we're also looking at all beneficiaries and non-beneficiaries, direct beneficiary, indirect beneficiaries, and so on.
Perfect. Thank you.
That's the only way we were able to do that.
I would like to know more about what activities you do to strengthen the economy.
We're looking at, we have four sub-components, I would say, for economic development. The first one is microfinance. The second one is business development services. The third one is agriculture. And the fourth one is sustainable use of natural resources. In the case of Srebrenica, is forestry and wood processing. Basically, it's forestry. Forestry.
Mm-hmm. Could you repeat the second one, please?
Business development services.
Business development. Okay, thank you.
So, in terms of microfinance, we didn't have a large fund to allocate to micro credit organizations, but the idea was just to attract them to the region. So, just for them to open an office there and start to disperse loans.
This was a mining region before, or not?
It was, yeah. You.
And there are no mines?
No, no, it's still working.
They're working?
Yes.
Uh-huh.
So you have a lead and zinc mine.
Mm. So that is bringing money in?
It's, yes. It's not, in terms of employment, it's not really high.
Yeah.
But in terms of income for the
mm-hmm.
municipality, it's a good income, because with the use of natural resources, I think that 60% of, I mean, it's a system of concession.
Mm-hmm.
And so out of the concession, the company has to pay to the government
mm-hmm.
a certain amount per, I don't know, kilogram of,
mm-hmm.
Let's say, lead that
yeah.
is being extracted. And 60% is transferred to the municipality, and 40% is going to the Ministry of Industry
mm-hmm.
and Mining.
And the redistribution is adequate when it arrives at the municipality?
That's another question. That's another question. Mainly, I mean, as I said at the beginning, now all three municipalities have now institutionalized participatory decision-making processes.
Mm-hmm.
In the municipality of Milici, it's a full participatory budgeting system.
Mm-hmm.
where basically the municipal budget is being discussed by the that consultative body, and the consultative body is able to make suggestions to the mayor, and so the mayor will basically plan the activities accordingly, and then after that, when the mayor finalizes the plans, then it goes to the municipal council, and then the municipal council agrees with it or not. So there is consultation that is being done, and where you have representation by both ethnic groups. In our case, there's only two ethnic groups, two ethnic groups in the region, Bosnian Serbs and Bosniaks. There's only a few families, Croat families. In Srebrenica, the same system exists, but not at the level as it is in the municipality of Medici, but there is consultation. And based on the priorities that they are identified by the partnership, by the consultative body, then the municipality or the mayor allocates the funds available. Did I answer to your question?
Yeah.
Or you want me to go more in detail?
Well,
Sorry.
Train people or do you... I can't exactly... I understand microfinance, and do you give training with giving out money also? Do you just...
Concretely, maybe, like...
Yeah.
More concretely.
Yeah.
In microfinance, it's only the disbursement of loans. So
mm-hmm.
basically, we looked at three partners. We sign an agreement with three microcredit organizations for the disbursement of loans.
Mm.
Then in the second part, which is the business development services, there's a part for training.
Mm-hmm.
Okay, you have the first one is for targeting micro and small enterprises, which is basically the training in, I don't know, financial management, in how to start a business, how to do marketing and these type of things. Then there is the disbursement of grants to businesses that are going to employ minority returnees. So it's targeted that we want this type of employment. And then there's also one which is called the financial education for the poor, which is basically looking and providing training to small income families on how to save as much as possible on the budget. And so to be able to still make some savings, so that in after that they can reinvest it, for example, in small agricultural production. That's the idea. In terms of agriculture, of course, we're giving inputs, but the main part is in fact technical assistance. So basically, providing training in modern agricultural production. Technologies, and also in terms of farming, accounting, and things like that. So there's always, it's not only input, but it's also technical assistance.
Mm-hmm. Mm-hmm.
So do you provide loans to this microcrediting? It's like partners, NGOs in this case, or what kind of organizations, and how much interest there is in these loans?
what we did is that we didn't give a loan to this microcredit organization, we just gave them the money.
Okay.
But there's a whole system of what we call capitalization, and basically they have to reach a certain number of targets that we're setting in terms of number of beneficiaries, in terms of repayment level, in terms of coverage in the rural areas, in terms of gender also is important.
Mm-hmm.
And so we're looking at all these indicators. If they've reached these indicators, basically we're saying, okay, these funds are now yours. Okay?
Mm-hmm.
Until the moment we do not do the capitalization, we can still ask them to send to return the funds.
Mm-hmm.
Okay? The interest is still high. It's 12%, I think, per year. So now it's the whole question is still interesting for us. For example, what we've done in microfinance, that's it. We're not going to do anything anymore in microfinance. That's something that we did during the first years of the program, and we're not going to do it anymore. Also because the advantage is that they're really going to the villages. So So in terms of the availability, I mean, basically it's the service is more personal, in fact, between the beneficiary and the microcredit organization. Okay, they're going to the beneficiaries. They're looking at the business plan. They're looking at what could be done with the funds that the people are want to apply to.
Yes, it's important. Otherwise, they end up in a worse situation sometimes if they don't know to manage the money.
Yes, yes. Microfinance is considered as being a success in Bosnia. But nobody has really done any impact assessment,
mm-hmm.
really what it has. Did it really bring any growth,
mm-hmm.
or was it only for people sometimes just to cover? I mean, when people are taking a loan of 500 euros to 1,000 euros, is usually to cover
other debts.
Yeah. Not other debts, but some needs in terms of, I don't know, they need to go to Sarajevo because they need to go to surgery. Exactly.
Mm-hmm. And then it's a cycle of debts.
Not really. We haven't seen that. We've looked at it, but it's not that.
Mm-hmm.
It's just that it doesn't. It hasn't created any growth. That's the thing. Doesn't bring people further into poverty,
mm-hmm.
but they didn't really create any growth. I don't think so.
Mm-hmm.
Even in agriculture.
Even in agriculture. Even more in agriculture. Because in agriculture, in fact, you need to have very specific financial products, because you need at least 1 year to 1.5 year of before you start a repayment of the loan, which microcredit organization do not really offer, and that's a problem.
Mm-hmm.
No, it's you have banks that are now offering more focused financial products that are more interesting than the microcredit organizations. And that's why we don't think that there's any need for us to get involved in microfinance anymore. It would be more interesting for us to work with banks to see, not to provide funds to the banks, but to try to see if the banks could come up with very specific financial products that could really respond to the needs of agricultural producers.
Mm-hmm.
And if it's agricultural producers, which type of agricultural producers? Because if you're looking at production of milk, for example, in the dairy, you can have a return on your investment very quickly. I mean, you buy the cow, you basically producing the milk, you have an income the same month you're selling the milk. If you're looking at the production of raspberries, for example, it takes 2 or 3 years before you really have an income from it. So.
Maybe you can tell us about some of the sensitivities of working in Srebrenica with the different communities. And also, you said you started the program in 2002. Why did you decide to start it at that period?
Second part. Basically, there was an embargo on Srebrenica until 2001.
In terms of providing
assistance to Srebrenica. The reason behind that is that the local authorities didn't want to support the return of Bosniaks. Okay, so the return process in Srebrenica started very late in at the end of 2000, beginning of 2001, and so it took some time. The history is that it's not UNDP that started the idea of implementing a program in Srebrenica, but it's the UN mission in Bosnia and Herzegovina that had the idea of implementing a program there. But since the UN mission was closing down, then it's UNDP that took over the lead in the implementation of this program. That was the first part.
Okay.
The first part of your question, the sensitivity.
Mm.
The problem of Srebrenica is that you have three municipalities, okay? You have Srebrenica, Bratunac, Milici.
Mm-hmm.
The municipalities Bratunac and Milici is not that difficult to work in these two municipalities, because there's less tensions between the two groups.
Mm-hmm.
Okay, There is communication between the two groups, but still, of course, we have to make sure that we are respecting the interests of both communities.
Mm.
Okay. In Srebrenica, it's a bit different because it's highly politicized. And it's not really politicized within Srebrenica as it is politicized from Sarajevo and Banja Luka.
Mm-hmm. It's the same. C'est politisé de la même façon ou pas de la même façon?
Banja Luka is, of course, looking at the political interest of Bosnian Serbs,
yeah.
While Sarajevo
mm-hmm.
is looking at the political, I mean, the interest of Bosniaks.
Mm.
But the problem is that they're not really looking at the interest of
mm.
the citizens of Srebrenica as they're looking at the interest of themselves in Sarajevo and Banja Luka.
Yeah.
Do you understand?
Yeah.
Okay.
Okay.
Le problème de Srebrenica, c'est qu'en fait, c'est politisé, mais pas par les gens de Srebrenica elles-mêmes, mais par les gens de Sarajevo et Banja Luka. Alors, les gens de Banja Luka et de Sarajevo, ils ne regardent pas vraiment les intérêts des gens, des citoyens à Srebrenica. Ce Srebrenica, c'est un symbole. Et donc, ils regardent comment ils peuvent utiliser le symbole pour leur propre gain politique à Sarajevo et à Banja Luka.
Donc, ça ne profite pas ni aux Serbes de Srebrenica,
ça ne profite ni à l'un ni à l'autre.
Aux musulmans
voilà.
De Srebrenica.
Non.
Voilà. On pourrait presque même non élargir cette analyse au pays tout entier.
Oui, mais c'est en cours. Ça se voit encore plus à Srebrenica.
Oui,
hein? Et alors, on voit très bien, le problème, c'est que quand on travaille avec les citoyens, surtout avec les Bosniaques,
mm.
les musulmans de Srebrenica, c'est qu'en fait, il y a un haut niveau de dépendance de l'aide internationale.
Mm.
Donc, les gens sont toujours dans le système de se dire, bon, ben, on va recevoir de l'aide, puis tout va bien, on reçoit de l'aide. Hein? Si on a un mois qui est un peu difficile, on va demander à quelqu'un s'il n'y a pas une petite aide. On va recevoir une vache, on la vend tout de suite. Parce qu'on sait très bien qu'on va recevoir une vache dans le futur.
Mm-hmm.
Je suis un peu sarcastique, hein, je suis désolé.
Non,
mais il y a vraiment une dépendance à ce niveau-là. Alors nous, ce qu'on essaye de faire avec naturellement les autres organisations qui sont actives dans la région, c'est de changer cette mentalité, de vraiment faire comprendre aux gens que s'ils décident de travailler dans le secteur de l'agriculture, ils doivent vraiment le faire. Il doit vraiment y avoir un investissement de leur part. Alors, ce n'est pas vraiment le cas. Et alors, les gens disent, oui, on va le faire, on veut vraiment s'occuper de la production de moutons. Hein, alors, on achète les moutons, on leur donne les moutons, puis après quelques temps, ils vendent les moutons. On dit, mais pourquoi vous avez vendu les moutons? Bon, moi, je m'en fous, moi. De toute façon, je retrouverai quelque chose de quelqu'un d'autre après. Ça, c'est le problème de Srebrenica.
Mm.
Qu'on n'a pas à Bratunac et à Milici parce qu'il y a moins d'attention de la part de la communauté internationale dans ces deux autres municipalités. Alors, il y a un deuxième problème, c'est que comme c'est politisé, les gens ont l'impression que de toute façon, ils ont droit à cette aide.
Ah.
Mm. Donc, on a droit à cette aide, c'est le... Comment dire, c'est... Pardon ? Non, non, non.
Je dis ça va de soi.
Oui, oui. En fait, c'est surtout à cause de Sarajevo, en fait, et de l'image que Sarajevo force sur Srebrenica. Okay. Si on va dans l'autre municipalité de Bratunac, qui a été affectée par la guerre de la même manière que Srebrenica, étant donné que Srebrenica, c'était une enclave, mais avec beaucoup de réfugiés qui étaient venus de Bratunac, de Milici et des autres municipalités aux alentours.
Voilà.
Et quand on va dans une famille qui a été affectée de la même manière qu'une famille à Srebrenica, ce n'est pas la même mentalité. Donc la famille à Bratunac s'attend moins de la communauté internationale qu'à Srebrenica.
Ça,
c'est parce
qu'ils
ont été habitués à
venir. Oui, et mais c'est aussi parce que Sarajevo donne cette image de Srebrenica. Et Sarajevo met simplement l'image sur Srebrenica, mais pas sur la région.
Tu veux dire les autorités de Sarajevo, ça ?
Les partis bosniaques.
Mmh. À Sarajevo.
À Sarajevo.
À Sarajevo. Et que, oui.
c'est le symbole aussi de la ville martyre.
Oui, c'est ça.
Du génocide.
Mais
où
oui,
une organisation internationale ne pourrait pas se permettre de ne pas aider parce que
c'est
tout de suite,
ça.
Ce serait,
et alors, même si on va vers les citoyens, on leur dit bon, mais c'est vrai que vous avez droit, mais vous avez droit à une aide pour le développement. Parce que nous, on est. C'est notre objectif, c'est le développement. Et alors, c'est difficile de changer parfois les mentalités. Les gens s'attendent et on leur fait croire qu'en effet, il va toujours avoir de l'aide, les gens vont venir et donner.
Mm.
Naturellement, il y a à un certain moment, il y a une fatigue des donateurs qui se disent non, mais il ne faut pas exagérer.
Donneurs fatigués.
Et donc, c'est assez triste parce que parfois, on se rend compte que les gens sont manipulés par Sarajevo. C'est ça le plus triste, en fait. Donc, les gens croient que l'aide va venir, ne vous en faites pas. Puis les gens, en même temps, ils entendent ce message, puis en même temps, ils voient que leurs politiciens, ils font rien pour ça, pour que la situation aille mieux. Et on a des cas où les gens vendent, donc on leur donne, par exemple, plusieurs vaches, ils vendent tout. Et là, on les regarde, on dit, mais pourquoi vous avez fait ça?
Oh. Est-ce que les autres des villages à côté se prennent plus en charge?
Dans les municipalités, dans les communes qui sont autour de Srebrenica, oui.
Mm-hmm.
Donc le niveau d'investissement de la part de nos bénéficiaires dans les municipalités de Bratunac et Mileši sont plus importants. Parce qu'ils attendent moins. Ils sont moins leur situation est moins politisée.
Mm-hmm.
Et on voit ça aussi au niveau de la reconstruction, pas seulement au niveau des activités économiques, mais aussi au niveau de la reconstruction des infrastructures. Ils sont prêts à dire, bon, ben, on va aussi mettre de l'argent là, parce qu'on sait bien que vous n'avez pas assez de fonds, on sait bien que ça va coûter cher, bon, ben, on va quand même participer financièrement à la reconstruction des infrastructures. Ce qui n'est pas le cas, c'est Zanissa.
En fait,
Oui, moi d'abord.
Les filles d'abord. Je voulais savoir, parce que je suis demandée un petit peu au début, mais sur la société civile, je sais que c'était une partie de votre programme au début.
Mm-hmm.
Comment vous avez mis ça en œuvre, un soutien à la société civile, et comment tu la vois, quoi? Comment toi tu envisages la renaissance ou non, ou comment est cette société civile à Srebrenica? Il paraît que c'est une ville très glauque, hein, que c'est vraiment l'ambiance, c'est pas, c'est ce que j'ai entendu, quoi.
Maintenant c'est super, oui. Maintenant c'est super, si on regarde. Moi je suis arrivé en 2003.
Ouais.
Si on regarde aujourd'hui, maintenant c'est super, comparé à 2003.
Ah d'accord. Ok, bon, on verra jeudi.
Bon, la société civile, c'est le gros problème en général en Bosnie. Au niveau de la société civile, parce que la majorité des citoyens ne s'identifient pas à la société civile. Donc si on prend que la société civile est le lien entre les citoyens et les autorités, ce lien ne fonctionne pas.
Parce qu'on a entendu plusieurs fois déjà qu'il y avait un gros problème de perception des autorités qui ne sont pas là du tout pour représenter... les intérêts des populations. Enfin, c'est ce qu'on nous a dit plusieurs fois déjà.
Donc, non, ça c'est vrai, hein,
oui,
au niveau
mais alors
des autorités.
En plus, lien ne marche pas.
En plus, la société civile ne remplit pas non plus complètement son rôle. En tout cas, si on regarde à Srebrenica,
ouais.
C'est pas le cas.
Oui, c'est ça.
Donc, si vous allez à Srebrenica et vous demandez à des citoyens qu'est-ce que vous pensez de la société civile, ouais, bon, mais c'est un truc.
C'est un concept.
C'est pas vraiment très transparent. Les gens, ils ont créé des ONG pour prendre de l'argent de la communauté internationale et le mettre dans leur poche. Ou bien, ils prennent l'argent pour aider leur famille ou des trucs comme ça.
D'accord.
Donc, c'est pas le meilleur exemple qui existe au niveau de la société civile. En partie, c'est vrai. Donc, en partie, c'est vrai qu'il y a eu un manque de transparence de la société civile. C'est vrai qu'une partie des fonds était mal utilisée par la société civile. Et petit à petit, ça s'améliore quand même.
Mais ça, c'est au niveau du fonctionnement, mais au niveau de ce que c'est, quoi. Je veux dire, il y a beaucoup d'associations, les gens se mettent ensemble, est-ce que c'est par communauté?
Non, en fait, donc avant, chaque commune était divisée en sous-parties de la commune, qui sont appelées les communautés locales.
Donc commune, tu veux dire municipalité.
Municipalité. Donc la les municipalités sont divisées en sous-régions, okay, qui s'appellent communautés locales. Chaque communauté locale avait son représentant, et il y avait une sorte de conseil des communautés locales au niveau de la municipalité. Okay.
D'accord.
Donc, et en fait, les citoyens s'identifient plus à cette structure-là qu'à la société civile. Donc, les citoyens sont actifs au niveau des communautés locales, mais pas vraiment au niveau des ONG, si tu veux.
Oui.
Okay. C'est clair?
Oui.
Et comment est-ce comment est-ce qu'ils peuvent être actifs au niveau de la municipalité? En fait, c'est le représentant qui est actif.
En fait, oui, mais il y a un conseil aussi de la communauté locale.
Oui, c'est ça.
Donc, au niveau de la communauté locale, il y a un président, un secrétaire, puis il y a une sorte de conseil de la communauté locale.
D'accord.
Hein? Et une communauté locale, c'est en fait plusieurs villages ensemble. Okay? Donc, c'est une sous-division géographique de la municipalité.
Okay, mais à part ça, il y a quand même des ONG, des associations.
Il y a des ONG. Il y en a combien? Je crois qu'il y en a à peu près une vingtaine, c'est pas plus, à Srebrenica. Dans toute la région, dans les trois municipalités qu'on couvre, il y en a une soixantaine, je pense.
D'accord.
Plus ou moins actives. Il y en a, ils ne sont pas vraiment actives. Il y en a d'autres qui sont plus. Il y en a qui sont vraiment qui sont le résultat de la volonté de plusieurs citoyens de faire quelque chose pour leur communauté. Il y en a d'autres qui sont le résultat d'un besoin par la communauté internationale. Donc c'est les gens qui ont compris que, je ne sais pas moi, le PNUD a besoin d'un partenaire pour la réalisation d'une activité. Et alors les gens se mettent ensemble. Et
le fond comme une entreprise, quoi. Enfin, aussi
oui,
pour,
oui.
Ouais,
ça,
c'est
ça.
C'est pas péjoratif ce que je dis. Mais
non, non, c'est pour la provision. Oui, c'est pour des services.
Voilà.
C'est une entreprise de services.
Voilà.
Qui est enregistrée comme ONG, mais en fait, ça n'a rien à voir. Ça. Si on regarde le nombre de gens qui représentent vraiment, c'est limité. Parce que c'est aussi la loi en Bosnie qui n'est pas vraiment favorable à un plus grand. On a besoin que de 4-5 personnes pour créer une ONG. Et alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une sorte de, comment dire, capture par l'élite de tous les processus de discussion au niveau des citoyens, des choses comme ça. Parce que si on regarde le conseil d'administration des ONG, en fait, ce sont les mêmes gens qui tournent un peu partout. Quoi.
Voilà.
D'abord, est-ce que l'argent que vous fournissez par l'intermédiaire du microfinance, est-ce que c'est remboursable?
Dans quel sens?
Dans le sens de vous leur prêter l'argent, ils travaillent avec après quelques mois ou quelques ans, ils doivent rembourser petit à petit.
Oui, oui. Ça, c'est la responsabilité des organisations,
voilà,
de microfinance.
Donc,
il y a... Oui, oui. Donc, les bénéficiaires doivent rendre l'argent aux organisations de microfinance.
Okay. Comme ça, de mon expérience, l'expérience que moi j'ai faite de microfinance chez moi, d'habitude, les critères, les qualifications pour avoir accès à cet argent devient un peu difficile pour les gens qui ont vraiment besoin de cet argent, de pouvoir accéder à l'argent pour travailler. Vous voyez? Donc, quels sont les critères que vous avez mis en place ici à Srebrenica? Et est-ce que c'est combien le taux d'intérêt qui est mis sur ça? Quelle est la durée de pas avoir pris cet argent? Combien de temps faut-il pour rembourser? Et est-ce que les gens arrivent, ceux qui prennent l'argent arrivent vraiment à rembourser? Quel est le taux des faillites, des remboursements? Quel est le taux des succès, des remboursements? Et aussi, activités, des groupes courants qui dans lesquels s'engagent les gens qui prennent cet argent, et est-ce que ça a vraiment réussi à augmenter la capacité de la productivité des gens, et comment avons-ils accès à des marchés pour avoir... C'est un tas de questions, quoi.
Oui.
Alors, c'est la réalité dans le microfinance que moi j'ai vécu
les,
au Ghana.
Oui, le taux de remboursement est relativement élevé. Je pense qu'il est de l'ordre de 98 à 99%. Mais ça, c'est parce que, en effet, les organisations de microfinance ont des critères très stricts. Le système qu'ils utilisent ici, c'est en fait chaque applicant doit avoir au moins 2 personnes qui doivent être garants du remboursement. Okay. Donc dans le cas où il n'y a pas de remboursement, il y a toujours 2 personnes pour rembourser. Et généralement, ça va être des personnes qui ont un emploi fixe. Donc moi, je suis producteur agricole, je n'ai pas d'emploi fixe. Si je veux recevoir un crédit de la part d'une organisation de microfinance, eh bien, je dois trouver 2 personnes qui ont un emploi fixe, qui vont être garants pour le remboursement de mon crédit. Et dans le cas où je ne rembourse pas, eh bien, ils vont prendre sur le salaire de mes garants. En fait. Au niveau du taux d'intérêt, comme je dis, c'est environ 12% annuel. Donc c'est 12% annuel. La durée de remboursement, ça dépend. Ça dépend des types de crédits, ça dépend du montant. Donc ça va de 12 mois jusqu'à peut-être 24-36 mois.
Et vous croyez que les critères qui sont mis en place font de sorte que les gens qui ont vraiment besoin de cet argent aient accès à ce dispositif?
Comment vous définissez qui a besoin?
C'est-à-dire, il y en a, peut-être comme vous dites, peut-être moi j'ai besoin de cet argent, je dépose ma candidature pour avoir, mais demande d'avoir des garants et tout. Ben, je n'ai personne, ou bien je n'ai personne qui travaille dans le secteur des finances fixes, disons, un salaire fixe, je ne peux pas avoir personne. Et voilà, c'est-à-dire, on va prendre les données et peut-être. Je suis plus que ce monsieur qui a des amis qui ont des travaux, des travaux fixes, des salaires fixes à la fin du mois, qui peuvent garantir pour lui.
Malheureusement,
voilà.
Oui. Malheureusement, non. Dans ce cas-là, la personne qui ne peut pas trouver de garant, malheureusement, elle ne va pas se trouver. Mais il y a toujours moyen de trouver quelqu'un. La personne ne doit pas vivre à Srebrenica. Hein? Donc ça peut être quelqu'un de la famille qui vit à Sarajevo ou à Banja Luka ou dans une autre ville, à Mostar. Il n'y a pas de problème. Il faut simplement que la personne ait un salaire fixe. Et il y a toujours quelqu'un dans la famille qui a un salaire fixe. Enfin, c'est la règle. Ce n'est pas à 100%. Mais... Et alors, il y a d'autres systèmes. Ça dépend des organisations de microfinance, mais les nôtres ne font pas ça. Où il y a des groupes de solidarité. Donc il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un qui a un salaire fixe, mais il faut un groupe de solidarité où en fait chacun pratiquement est garant que l'autre, que les autres bénéficiaires vont rembourser le prêt.
I have a question in English. Sorry. You said that the population in Srebrenica now 80% Bosnian Serbs, 20% Bosniaks, more or less, and that there's very high unemployment among Bosniaks.
Mm-hmm.
Do you think the situation as it is now is sustainable? If the Bosniaks are more or less 100% dependent on humanitarian aid, or do you think when the humanitarian aid runs out eventually, because I know there was a lot for former Yugoslavia and still going, but do you think when it runs out, the Bosniaks will leave to Sarajevo or to another predominantly Bosniak populated area?
In the long term?
In the long term.
In the long term, I think so, yes.
So why the project?
Merci pour ne pas faire de la langue de
bois. To try not to have that. So if we're looking at the situation today, I think that in the long term, it will eventually happen like that. Okay? That's why also we are not only covering Srebrenica, but also the surrounding municipalities.
Mm.
So there's a today we had a discussion with the deputy resident representative here, and we discussed the issue of Srebrenica and what's going to happen with the municipal election that are coming in October this year. And for the moment, the mayor is a Bosniak because of the previous electoral system. The current mayor is a Bosniak. Okay. Since they changed the election law, the chances of having a Bosniak mayor are no lower than they were before. Okay. And so everybody is like nervous what's going to happen, how it's going to have an impact on return. And so we were discussing and we were looking at that. In fact, if I'm taking two families with same back, more or less the same background, one family in Bratunac is more thinking about the return in terms of long term, and they're planning to stay there, while in Srebrenica is still short term.
Mm.
And you still have a lot of families that are saving money to be able to purchase land or purchase an apartment in what is called the Federation. Okay? And so there's a difference there.
Yeah.
It's a question of, it's not only a question of employment, it's a question of education, it's a question of health,
mm-hmm.
healthcare.
Yeah.
It's not because of the lack of interest by the international community or by the authorities. It's just that when the municipality is trying to attract doctors to the outpatient clinic in Srebrenica, they cannot find one that is interested to come to Srebrenica. And it's the same thing with other people that have competencies or skills.
Sorry, when you say doctors, is there an issue between the ethnicity?
Not even
of a
looking
doctor?
At that. Not even looking at that. Any doctor.
Any doctor.
And that's really an issue for Srebrenica because it's not attractive for anybody.
Because of the stigma.
Yes.
The media.
And still because Srebrenica has the picture of being a really horrible, La Galia said, horrible place.
Yeah.
Well, it's not really the best place in the world, but it's improving.
Je vais peut-être essayer en français, mais
c'est
que j'y arrive mieux. Mais par rapport à ce constat assez plus ou moins pessimiste, en tout cas sur le long terme. Vous mentionnez aussi avant des expériences que vous ne referiez plus, en tout cas qui ont donc sûrement pas marché.
Ouais.
Sur quels aspects, là, précisant d'expérience, quels sont les outils qui ont changé, que vous avez fait évoluer, et sur quels aspects vous allez vous concentrer en ce moment, et quelles actions, un peu des expériences peut-être concrètes. Peut-être parce que les vaches et les moutons, apparemment, ça ne marche pas trop. Je sais pas.
Non, mais ça, les vaches, ça marche. Les moutons, ça marche moins.
D'accord.
En fait, on s'est rendu compte à cause du... Il est extrêmement difficile pour nous de pouvoir identifier qui a réellement envie de s'occuper de moutons et qui a envie de prendre les moutons pour pouvoir les revendre après. Donc, c'est extrêmement difficile de savoir à l'avance. Et donc, le système, c'est que l'approche qu'on prendra dans le futur, ce sera d'abord de travailler sur l'assistance technique, au niveau de l'éducation des fermiers sur les nouvelles technologies, par exemple pour la production de moutons. Et donc, d'abord avoir cette phase-là et voir vraiment les performances des fermiers. Est-ce qu'ils vont vraiment adopter ces nouvelles technologies? Parce que beaucoup de familles ont déjà 5, 6, 10 moutons. Et on peut déjà commencer avec 10 moutons. Okay? et alors voir ce qu'ils vont faire avec les 10 moutons. Est-ce qu'ils vont vraiment utiliser ces nouvelles techniques? Est-ce qu'ils vont vraiment faire attention à la santé des moutons, etc.? Et donc, on va les suivre. Après une période d'un an, si on voit qu'ils ont vraiment bien tout fait, ça veut dire qu'ils ont vraiment investi dans cette activité, alors ils auront droit à un support plus financier avec le comment dire, ils recevront donc des moutons. Mais parce que ce qu'on avait fait cette fois-ci, on avait donné les moutons, et puis en leur disant, bon, ben, on va vous donner les moutons, et puis on va faire de l'éducation ensemble, des choses comme ça, et ça ne fonctionne pas. On fait d'abord l'éducation, puis après on donne. Malheureusement.
Et après, il y a d'autres aspects outre les moutons, il y a d'autres.
Mais en fait, ça fonctionne à peu près pour tout, en fait. Hein, donc il y a d'abord l'assistance technique, d'abord on fait tout ce qui est partie éducation, et puis on met ça en application. Okay. Et alors on voit comment ça fonctionne. Alors ce qu'on a vu aussi, ce qui fonctionne bien, c'est malheureusement la compétition. C'est la réalité des choses. C'est en fait avoir une compétition entre les trois municipalités. Donc on définit exactement qu'est-ce qu'ils doivent atteindre comme performance au niveau de la préparation de projets, de propositions de projets, des choses comme ça, la qualité des propositions de projets. Les discussions qu'il doit avoir avec les citoyens pour vraiment démontrer que la proposition est basée sur une discussion avec le plus large groupe de citoyens pour que le projet réponde vraiment aux besoins des citoyens. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est une compétition. Donc, on dit aux municipalités, enfin, trois municipalités, bon, ben, il y a, je ne sais pas moi, disons 200 000 euros qui sont à votre disposition, mais c'est une compétition. Ceux qui nous donnent la meilleure proposition, ben, ils recevront les 200 000. Et c'est malheureusement le seul système qui motive vraiment les gens.
Mais c'est bien pour toi.
Ben, oui, non, mais parfois les gens n'aiment pas qu'on dise compétition. Je sais pas.
Vous direz émulation.
Mais s'il y a des libres et non
faussés. Non, c'est comme une compétition.
S'il y a des libres et non faussés.
Non, mais en fait, parce que c'est aussi au niveau des maires. Les maires, si on ne dit pas qu'il y a une compétition, si on dit que l'agent sera là, ouais, tranquille, on va le faire, oui. Bon, on attend toujours les cahiers des charges là, pour la route. Là. Ouais, non, mais ça arrive dans une semaine. Puis après un mois, non, mais on attend toujours. Là. Alors que quand il y a une compétition, ben, ils sont obligés d'aller plus vite. Hein, parce qu'on leur dit, bon, ben, ça, si vous ne l'avez pas fait à ce moment-là, au revoir. Et alors là, vraiment, ils regardent ce que les gens font. Ils vont dans les bureaux, puis ils disent, bon, t'as terminé la proposition de projet? Non. J'ai pas envie de perdre l'argent. Hein.
Oui, c'est ça.
Et c'est en fait, c'est ça, c'est cette approche qu'on va avoir dans le futur. Et alors, jusqu'à présent, si c'est le PNUD qui réalisait les activités, maintenant, dans le futur, on va progressivement, en fait, transférer les responsabilités aux municipalités. Donc c'est les municipalités qui sont responsables de la réalisation des projets.
Il y a des... Le mot m'échappe à l'instant. Des organisations de paysans, je reviens de nous à l'agriculture, des coopératives, c'est ça ?
Des coopératives.
Notamment dans le domaine laitier, où ça peut être intéressant.
Les coopératives, ça fonctionne très mal. Jusqu'à présent, on a eu des mauvaises expériences
oui.
avec les coopératives. En fait, ça vient du passé.
Oui, du passé socialiste.
Ouais. Oui. Où en fait, les coopératives fonctionnaient comme des entreprises privées.
Oui.
Et alors, lors du passage de la transition de l'ancien système ou un système plus de libre marché,
mm-hmm.
en fait, c'est devenu des entreprises privées qui fonctionnent très, très bien,
mm-hmm.
mais qui ne payent pas naturellement les mêmes taxes que les autres. Et alors ils jouent un double rôle, un double jeu d'entreprise privée, de coopérative. Alors quand ils vont vers les donateurs, ils font la coopérative. Quand ils vont vers le marché, c'est l'entreprise privée. Donc ils jouent avec ça. Et alors le problème, c'est que même si on essaye, nous, par exemple, de mettre en place une coopérative, par exemple, au niveau de la production de lait, c'est que les gens ont peur. Donc, et alors, les gens ne sont pas prêts à s'investir complètement dans la coopérative. C'est ça le problème. Donc, c'est de pouvoir changer, de montrer aux gens que si les structures qui sont mises en place sont suffisamment solide, bien, elle va fonctionner, la coopérative. Mais les gens ont toujours l'impression, ouais, non. Par exemple, on a un cas avec le secteur du lait, c'est qu'on a nos producteurs de lait. Et donc, on les a aidés à créer une coopérative. Puis, à un certain moment, la coopérative a dit, bon, est-ce qu'on peut se mettre d'accord ensemble au niveau de l'achat des concentrés.
Mm-hmm.
Puis les gens ont dit, ouais, enfin, quel est ton intérêt là-dedans?
Mm-hmm.
Parce que les gens croient que les gens qui travaillent dans la coopérative, ils ont un intérêt financier là-dedans. Autre que simplement, il y a un directeur qui est payé par la coopérative.
Il y a toujours un manque de confiance.
Il y a un manque de confiance, oui. Et ça, c'est extrêmement difficile à changer. Même si on dit qu'il va y avoir une audite, qu'on va regarder les comptes et
les
tout.
Chiffres.
Non. Même s'il y a un maximum de transparence, il y a encore quelque chose qui ne va pas là. On est sûr qu'il s'est mis d'accord avec quelqu'un.
Oui, ça ne facilite pas les choses.
Quand vous disiez municipalité, c'est une municipalité. Quand vous parlez de la compétition en municipalité, c'est la municipalité de Srebrenica et d'autres autour.
De Bratunac et de Milici.
Et celles autour, qui sont les gens qui y habitent? Pour faire la distinction entre les gens.
C'est plus ou moins la même chose qu'à Srebrenica, ouais, 80-20%. En fait, à Srebrenica, je fais une erreur, ce n'est pas vraiment 80-20%, c'est plutôt 70-30%. C'est dans les autres municipalités où c'est plutôt 80-20%. Donc à Srebrenica, il y a quand même plus de... Au niveau des pourcentages, il y a plus de Bosniaques que dans les autres municipalités. La proportion de Bosniaques est plus importante à Srebrenica que dans les autres municipalités. Oui.
C'est 30% de Bosniaques.
Oui. Et 70% de Serbes.
How do you interact with the other international organization as a OSC or UNHCR? Because it seems like with the OHR also, all these organizations have some common topics in which own they all work, like for human rights or some for economy and consumption. And how do you manage this?
We don't really manage that.
Okay. You mean it's competition?
No, it's not competition. More or less at the local level, the distinction between the different organizations is more clear. And the division of responsibilities or actions is more clear. So there is not the same level of overlapping as you might have the impression, for example, in Sarajevo or the larger cities, at the central level, in fact. So for us, it's a lot easier at the local level. We know exactly what OSC is doing. We know what's, UNHCR is not active anymore, but when they used to be active, we knew exactly what they were doing. So they went. We were always trying not to overlap. It's not impossible that it happens, but at least we're trying to reduce it as maximum. At the local level, it's a lot easier to work at the national level. At the national level, you're right, there's a competition between different players, depending on the topics. Question of territory, I don't know why.
Is it also because of the donors, like they want to place their money in a certain town, or there are many towns that may need help other than those which really?
No, it's really strange. Sometimes you have also very popular topics at a certain period of time. And when you have a popular topic, everybody wants to be in that topic, unfortunately. So everybody's is rushing there.
Mm-hmm.
Then all of a sudden you have, I don't know, USA, UNDP, I don't know, OSC, they all want to do something about participatory, participatory decision-making mechanism. Everybody wants to do it. Or about rights-based municipal assessment and things like that, and then everybody but I don't know. It's like there's a new popular topic and everybody wants to do something. But otherwise, at the local level, it's a lot easier. You don't find these antagonisms as you might find them on a national level. Makes my life easier.
Different topic, the munition that we heard now at the OSC that the munition is going to be destroyed or it's already done. And I heard from an OFR person, he said there is not enough money, and the OSC, they say now UNDP has lots of money. enough money to
I'm not sure that we have sufficient funds to take care of all the things. I mean, of destruction of small arms. Yeah, how do you call it? Small arms and small arms and light weapons plus the ammunition. We're involved in it, but I'm not sure that we will have sufficient funds to really address the issue.
But you're only giving the money, the funds.
No, we're implementing.
You have also the.
No, we have a team that is implementing the project, that is responsible for that.
Ah, and OSC, they also.
No, I think they might be included in the steering committee or the steering board of the project, but not much there, not more than that.
Okay.
No, we're responsible for the activities. We're coordinating the activities with the. Relevant ministries, basically the Ministry of Defense, and we have subcontractors that are responsible for the destruction of the weapons and.
And the subcontractors are from.
From Bosnia.
So
you have specialized.
They are private companies or NGOs?
Private companies. And so there is a whole system of tracking to make sure that. I remember there was one case once that all of a sudden two submachine guns were missing, but we knew exactly there were two of them missing. So there's a whole system of being able to trace down and to make sure that everything that is leaving the warehouse is really being destroyed. Because that's the whole point there. Of course, there's also a question on. The government is also thinking about selling part of it because it would be a good income for the country, but the international community is not willing to permit that. So now, in terms of the armed forces, it's very clear everybody has more or less the numbers, the correct numbers in terms of how many light weapons they have, how many small weapons, small arms. Yeah. Arms they have and the ammunition, so there's no question there.
And how long do you think it's gonna take to?
Don't ask me because I don't know. It's a colleague of mine who's responsible for that project.
Uh-huh. But years and years.
I think they got an extension for 2 years or something. But I think it's going to last longer than that.
Maybe last round of questions, because if I am right, you are not in this, no?
Yes.
It's very très gentil about
no,
it.
No, but
so
it's
on
holidays.
Yes, because usually
but I had a meeting this afternoon, so it's
oh my
God. You should be in Srebrenica. Tu vis à Srebrenica?
En fait, du lundi au vendredi, je vis à Srebrenica. Pendant le week-end, je suis à Sarajevo.
Tu reviens. Et est-ce que je peux
non,
poser
c'est pour ma santé mentale.
Ouais.
Non, mais c'est vrai.
Est-ce que je peux te demander, peut-être je vais laisser la dernière question à l'étudiant, mais c'est une question très rapide. C'est le mémorial.
Oui.
On doit se faire accompagner. Il y a quelqu'un qui nous accompagne. Comment ça se passe? Parce que nous, on y va en fait le 1er mai, donc c'est férié. Donc
ah non, là, ça va être difficile.
Tu veux dire le 1er mai?
En fait, le problème, c'est que pour rentrer dans le cimetière, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est qu'il y a une autre partie qui est d'habitude ouverte aussi au public, qui sera plus ou moins qui sera fermée, qui est le. Où il y a, en fait, ils présentent un film sur Srebrenica et
d'accord.
Les événements de Srebrenica.
Et
ça, malheureusement, je doute. Qu'il y ait quelqu'un qui soit là le 1er mai.
Okay.
ça. Mais donc toi, tu as été dans ce mémorial.
Oui. Non, mais la partie qui est intéressante où il y a le film, malheureusement, vous n'allez pas y avoir accès. Bon, le cimetière est là. Bon, naturellement, il faut y passer. Mais le film, c'est ce qui est le plus intéressant parce que ça explique aussi tout ce qui s'est passé en fait.
Mais est-ce que tu as eu des contacts avec l'ONG Women of Srebrenica?
Laquelle?
Ah, justement, parce que justement, nous on avait une adresse.
Il y en a quatre.
On avait une adresse, mais ça s'appelait Women of Srebrenica, mais elle était à Tuzla. Donc on s'est dit, oh,
ah, oui, non,
ils m'ont jamais répondu en fait.
Oui, c'est Hajera Čatić. Hajera Čatić.
Mm-hmm.
C'est elle en effet la directrice de cette ONG, Women of Srebrenica.
Mais toi tu n'as pas eu.
Mothers of Srebrenica.
Ah, c'est ça.
Mothers of Srebrenica.
Et eux, ils sont basés à Srebrenica?
Non, ils sont basés à Tuzla.
Ah, ok. Ils sont partis.
En fait, il y a quatre organisations. Il y en a une qui est à Sarajevo, une à Srebrenica et une à Tuzla. La quatrième est dans une. Proche de Sarajevo, en fait.
Une. D'accord.
La quatrième
est proche de. Donc,
on pourrait.
D'accord.
Non, ça c'est la quatrième qui est proche de Sarajevo.
C'est ça. Oui. Ok, donc on va peut-être essayer de les voir ici. Ok, je voulais juste avoir
donc,
ce petit détail.
Ouais.
Il y a encore quelqu'un qui a une dernière question ou est-ce qu'on laisse partir Enfin, est-ce qu'on part plutôt C'est bon.
On le remercie un peu beaucoup.
Oui. Voilà, pour une fois, je vais pouvoir faire mes remerciements. Donc, au nom de la directrice du programme Noah Catherine Gourbin, la professeure Catherine Gourbin, au nom du professeur Guillaume Munch, de moi-même et de tous les étudiants du groupe Noah de l'Université catholique de Louvain, et même de Laurent Richard pour Guernica, je te remercie vraiment de nous avoir reçus parce que maintenant, donc, on n'avait pas beaucoup d'infos sur la ville, et alors tu nous as livré une vision vraiment pertinente et sans aucune. Langue de bois, enfin sans langue de bois aucune, donc merci beaucoup Alexandre.
Merci
beaucoup.
Si vous avez des questions supplémentaires, vous envoyez ça à Galia, puis Galia a une adresse email. Donc
ouais. Vous avez sur le programme l'adresse email.
Vous pouvez m'envoyer directement.
je voulais juste. Il faut qu'on se voit parce que je dois faire un petit point, parce qu'on a peut-être un briefing informel ce soir. Je voulais quand même vous inviter au restaurant parce que demain, écoute, je sais que tu es en vacances, donc si tu ne viens pas, c'est